fenêtre, notre pays débordant d'amour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est La Société dans tous ses états, troisième lundi du mois, Radio Libertaire 89.4, le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales et les horaires 1. 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. Excusez-nous pour le petit retard dû à un léger bug sur le générique, dont on se passera pour aujourd'hui. Mais vous ne vous inquiétez pas, vous aurez le générique le mois prochain. Mohamed au micro, Lulu à la technique. Bonjour Lulu.
Salut.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Claude Sarfati. Bonjour Claude.
Bonjour Mohamed.
Claude Sarfati, pour un livre publié aux éditions La Fabrique il y a déjà quelques mois, c'était fin 2022. Hein.
Exact.
L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. Alors, d'habitude, quand on entend le mot radicalisé, on pense plus aux banlieues qu'à l'État. Le terme de radicaliser, radicalisation, a pris ces dernières années une connotation tout à fait particulière. Et on va voir que... Dans ton ouvrage et dans ton travail, tu abordes cette question donc de l'État d'une manière, je dirais, très, très intéressante, très originale, et avec une approche à la fois d'économiste et de droit, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Mais on va te présenter, tu as été professeur d'université.
Exact, en économie, hein, en sciences économiques, comme on dit.
Et tu t'es spécialisé dans un domaine assez particulier, il faut le dire.
Alors, je me suis en particulier intéressé à l'industrie d'armement, ses relations avec les systèmes industriels civils, mais je travaille aussi sur les grands groupes mondiaux, qui composent le capital financier mondial, ce qu'on appelle la mondialisation, mais qui est un terme que je n'accepte pas trop.
Est-ce qu'on pourrait te qualifier, alors excuse-moi si jamais ça te hérisse le poil, d'économiste atterré ou d'économiste critique ? Qu'est-ce que tu préférais comme...
Non, je ne suis pas tellement atterré, je D'accord. suis surtout critique. Et en fait, je m'inscris dans les courants de ce qu'on appelle l'économie politique, c'est-à-dire que l'économie, c'est d'abord et avant tout des rapports sociaux, et des rapports sociaux conflictuels, ouais. Donc avec des enjeux de pouvoir... D'où le terme politique, qui était le terme fondateur hein, de l'économie politique, y compris de penseurs aussi libéraux que Adam Smith ou David Ricardo. Et ensuite, disons, dans la critique de l'économie politique, qui a été inspirée par Marx et dont je me réclame encore aujourd'hui.
D'accord. Alors, ce qu'on découvre à la lecture de ton ouvrage, qui est tout à fait intéressant et passionnant et bien détaillé, on a une bonne heure et demie presque pour en parler. Ce qu'on découvre, c'est l'importance dans la France d'aujourd'hui, mais aussi dans la France, dans l'histoire de la France depuis au moins deux siècles, l'importance de l'institution militaire. Alors aujourd'hui, à part le jour du 14 juillet, ou lorsqu'on... D'ailleurs, à ce propos, y a-t-il d'autres pays qui ont la même tradition politique que la France, où on organise un défilé militaire le jour de la fête nationale ?
Alors, Donald Trump est venu en France, et il a été ébloui, c'est le terme qu'il a utilisé, par le défilé militaire que Macron avait organisé. Et il est rentré à Washington, à la Maison-Blanche, il a dit « Je veux la même chose ». Et immédiatement, il y a eu une levée de boucliers, y compris des parlementaires du Congrès, qui ne sont pas des gens révolutionnaires, en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça voudrait dire que c'est l'intrusion de l'armée dans la vie civile, premièrement. Deuxièmement, vous ne vous rendez pas compte de faire circuler des tanks comme ça écraserait le bitume et combien ça coûterait aux contribuables américains ?» Voilà.
Ouais, c'est purement anecdotique, mais c'est très frappant de savoir que la France est l'un des rares pays avec une constitution démocratique parlementaire à faire défiler son armée le jour de la fête nationale. On ne voit ça habituellement que dans certaines dictatures orientales ou autres. Bon, c'était une toute petite parenthèse, mais qui valait le coup d'être ouverte. Tous les ans, ici, le jour du 14 juillet, on préfère, comme le dit la chanson, rester dans le clé douillet. Donc, vous aurez, nos auditeurs auront bien compris qu'on garde quand même une certaine connotation pacifiste et antimilitariste. Alors, pour en revenir à notre propos, d'où vient cette présence de l'armée française, et pas uniquement le jour du 14 juillet, mais quelles sont les origines historiques de la présence, du poids, de l'influence de l'armée dans les institutions et dans la tradition politique française ?
Oui, alors je pense qu'en fait, il faut partir de deux idées fondatrice à la fois de ma réflexion, mais aussi, je crois, de la réalité française, c'est que d'une part, l'État a toujours été au centre des relations sociales en France. La société française s'est construite à partir de la monarchie absolutiste Louis XIV et la suite avec un État. Bien sûr, ce n'était pas un État démocratique comme maintenant, mais c'était un État. Et la deuxième caractéristique, c'est que l'armée a toujours été au centre de l'État français, au centre de la vie politique, sous des formes plus ou moins discrètes, plus ou moins directes. Je vais y revenir dans un instant. Mais cette présence de l'armée, elle est au même titre que l'État fondatrice de la société française. Hein. Il y a en philosophie beaucoup, beaucoup d'encre qui a été gâchée parfois pour parler de l'État et de la société civile. Eh bien, en France, on pourrait dire que l'État sature l'espace des relations civiles. Enfin, la distinction entre l'État et la société civile, il faudrait vraiment la rechercher. On pourra y revenir dans les problèmes contemporains. Donc, l'armée dans l'État et l'État dans la société, c'est finalement des choses qui sont imbriquées.
Tu donnes différents exemples dans ton livre, dans la première partie de ton livre. En particulier, tu t'attardes à un long moment sur la figure de Bonaparte. Alors, il y a Napoléon Ier, donc qui est venu clore et terminer un petit peu la phase révolutionnaire hein, entamée en 1789 qui a marqué de manière très très importante hein, bien sûr l'organisation politique de l'État français moderne hein, qu'il a contribué à créer, le code civil, le code Napoléon, tout un ensemble d'institutions qui restent encore aujourd'hui très liées à cette phase historique, mais aussi les guerres qu'il a pu mener en Europe et en dehors de l'Europe même. Et puis, il y a l'autre figure, le Bonaparte Napoléon III, hein, au milieu du XIXe siècle, va aussi marquer très fortement le paysage politique français. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ces deux points particuliers de l'histoire française et essayer de comprendre quelles ont été leur implication et leur influence sur l'ensemble de la société et est-ce qu'on en ressent encore aujourd'hui?
Oui, bien sûr, et c'est très important parce que c'est l'actualité, comme tu viens de suggérer. En fait, si j'ai dit que l'État avait été fondateur des rapports sociaux en France, il a changé de nature avec le changement des rapports sociaux. Et il ne s'agit pas de penser que c'est le même État qui, de Louis XIV à Napoléon III, voire à la Troisième République, serait resté immobile et identique à lui-même de toute éternité. Bien sûr, il faut, comme toujours, en sciences sociales, contextualiser. Et donc, si l'État qui naît au XIXe siècle, avec l'expansion du capitalisme, s'inspire et s'appuie même sur la bureaucratie qui s'est constituée pendant des siècles sous la monarchie absolutiste, il s'adapte aux nouvelles réalités qui sont le capitalisme. Et cette dimension est absolument indispensable, parce que qui dit capitalisme dit relations sociales, et relations antagonistes, et fortement antagonistes entre ceux qui détiennent les moyens de production et puis ceux qui ne détiennent que leur propre corps pour pouvoir survivre. Et cette dimension sociale de lutte de classe, elle est indispensable pour comprendre pourquoi le bonapartisme français s'est développé à partir de Napoléon Ier, mais surtout à partir de Napoléon III. Les classes dominantes en France, et la révolution de 1789 d'une certaine manière l'a montré avec éclat, les classes dominantes ont toujours eu la frayeur des classes dominées. C'est une des caractéristiques des classes dominantes françaises que d'avoir toujours craint les luttes de classe, bien sûr, à juste titre souvent, compte tenu de la violence qu'exprimaient ces classes dominées. Hein, je rappelle d'abord la Révolution française proprement dite, qui est quand même faite par les classes populaires, puis ensuite 1830, les Canuts, c'est pas rien, hein, c'est déjà une révolution avec le mot d'ordre de la République, qui à l'époque est un mot d'ordre révolutionnaire, puisqu'on vit depuis 1789 pratiquement sous des dictatures militaires ou sous des dictatures royales, puis 1848, qui cette fois-ci se fait au titre de la République sociale, c'est-à-dire qu'on ajoute le mot social et vous pouvez imaginer la frayeur qui a saisi des bourgeois qui se pensaient être bien installé en France et solidement installé sur une monarchie, et qui se retrouve face à une classe ouvrière qui réclame non seulement la République, mais la sociale, comme on dit, quoi. Et puis, il y a 1870, ici, c'est bien connu dans ces locaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui manifeste à nouveau cette force de la classe ouvrière. Donc il faut bien comprendre que la frayeur des classes dominantes françaises, elle n'est pas une frayeur naturelle ou génétique, elle est une frayeur qui est inspirée par les combats que cette classe ouvrière française, que le peuple français a mené tout au long du 19e siècle. Et donc cette classe dominante, elle a toujours cherché en France, c'est là aussi qu'on retrouve une spécificité qui d'une certaine manière se rajoute à ce que j'ai dit sur la permanence de l'État en France. La spécificité des relations sociales en France, c'est que cette classe dominante, elle a cherché en permanence, et je dirais jusqu'en 2023, elle a cherché en permanence à être adossée à l'État, de peur d'avoir à affronter directement, j'allais dire, dans le libre jeu des luttes de classe qui se mènent dans d'autres pays, on prend souvent l'Allemagne ou l'Angleterre comme exemple, de peur d'avoir dans ce libre jeu des luttes de classe à avoir beaucoup à perdre et peu à gagner. Donc elle s'est réfugiée d'une certaine manière dans l'État, et cette fusion, je dirais pas organique, ça serait excessif, mais cette fusion entre la bureaucratie d'État et les classes dominantes, on la retrouve aujourd'hui. Bon, j'ai utilisé un terme pendant le Covid et puis depuis, de capitalo-fonctionnaire, pour essayer de faire prendre conscience, de façon un peu polémique, ou en tout cas, pour l'instant, pas très scientifique, de cette osmose qui existe entre les classes dominantes et les sommets de l'appareil d'État, bon, qui aujourd'hui est bien connu, qui penche plus vers le privé, avec McKinsey et même l'origine sociale de Macron, puisqu'il vient de la banque privée, mais qu'il faut pas surestimer. Enfin, le privé et le public sont profondément intégrés en France. Donc, ce cadre, disons, des luttes sociales me paraît indispensable à prendre en compte pour comprendre pourquoi le bonapartisme s'est construit, parce qu'effectivement, si vous avez des luttes de classe qui prennent ce tour fréquemment violent, ben vous avez besoin d'un appareil d'État. Ce n'est pas simplement au niveau de l'entreprise, en licenciant les ouvriers, que vous allez arrêter les manifestations insurrectionnelles. Donc le bonapartisme, c'est aussi une forme, et c'est un des rares mots qui s'est imposé un des rares mots français qui s'est imposé dans la science politique internationale, qui est envahie par l'anglais, cette science politique, elle reprend le terme français de bonapartisme. C'est pas, disons, une spécificité française, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi il était né en France. Alors il est né en France en 1799, dans les années qui précèdent, mais en particulier avec le coup d'État de Napoléon. Et il faut rappeler ici, pour lier bonapartisme et institutions militaires, puisque c'était un peu le sens de ta première partie de question, il faut rappeler ici que toutes les républiques de la seconde à la cinquième ont été en fait introduites par un coup d'État militaire. Alors on pourra y revenir. Je peux peut-être même d'ailleurs y revenir tout de suite.
C'est très important de préciser ce point de vue pour qu'on comprenne bien la situation actuelle. Hein. Ouais.
Le bonapartisme, c'est pas simplement une forme politique qui accorderait un peu plus d'importance à l'exécutif ou qui serait un peu plus démagogique, vu le président, que dans les régimes plus parlementaires. Non, le bonapartisme, ça tient à ces relations sociales que j'ai définies, et c'est adossé à l'armée. C'est adossé à l'institution militaire. Et c'est pour ça que je disais ça, c'était pas une incidente à côté de notre débat. L'armée a renversé toutes les républiques, je disais, depuis la première jusqu'à la quatrième, pour instaurer un pouvoir civil. C'est une caractéristique sur laquelle il faut revenir. L'armée est la colonne vertébrale de l'État, et je le répète, elle a renversé la Première République avec Bonaparte, elle a renversé la Seconde République, la République sociale, enfin plutôt l'aspiration à la République sociale que manifestaient les ouvriers parisiens et pas seulement parisiens. Elle a renversé ensuite le Second Empire en 1870 en confiant à la Troisième République le soin de reconstruire un État un peu plus démocratique. Elle a renversé, on y reviendra, la Quatrième République avec le coup d'État de De Gaulle. L'armée est au centre à la fois du bonapartisme et du changement de régime. Mais c'est très important de le comprendre, elle n'organise pas ces coups d'État successifs que j'ai mentionnés pour garder le pouvoir pour elle-même. Nous ne sommes pas là dans des golpes à la latino-américaine ou dans des coups d'État fragiles que sont les États africains. L'armée, en général, enfin, dans tous ces cas que j'ai mentionnés, remet formellement le pouvoir à un gouvernement civil, même si ce sont des militaires. Bien sûr, il ne faut pas perdre quand même le sens des réalités. De Gaulle était un militaire, Napoléon s'inspirait évidemment du prestige de ses victoires militaires, mais ce sont des institutions civiles que l'armée remet en place, en gardant bien sûr ce rôle de colonne vertébrale que j'ai mentionné. Donc on voit là comment l'État français a pu se construire successivement au fil des coups d'État qui sont organisés, se muscler, s'organiser, mais toujours avec cette permanence de l'institution militaire qui veille en quelque sorte à ce que l'ordre social règne, puisque, comme le disait Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, l'armée, c'est le dernier rempart de la société.
Oui. Alors, c'est vraiment une situation assez... assez typique, bien française, qu'on a du mal... alors, est-ce que c'est par... par censure, ou est-ce que c'est le fait qu'on a l'impression on vit dans ce pays sans connaître forcément les infrastructures qui le tiennent et qui le maintiennent. C'est une spécificité vraiment bien particulière à la société française. Tu viens de décrire là une histoire qui est malheureusement très peu connue de la part de la population, et en même temps on sent bien qu'il y a une continuité, que c'est une... et tu le dis dans ton livre, un des ressorts de cette situation, c'est les expéditions que les différentes armées vont faire. C'est en partie les campagnes de colonisation qui vont être menées tout au long du 19e siècle, qui ont commencé bien avant, bien entendu, mais qui vont se renforcer à cette époque-là et qui vont donner à cette armée de plus en plus de poids dans la société française. Est-ce qu'on peut développer justement cette partie-là? Parce qu'on va revoir par la suite que ça va avoir un grand écho au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui.
Oui, en Afrique en particulier, bien sûr, aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sahel ou ce qui s'est passé en Libye. Bien sûr, la colonisation, l'extermination a commencé dès Louis XIV avec le Code Noir, mais on va contextualiser à l'époque moderne, l'expansion du capitalisme. Précisément, la vague de colonisation qui commence à partir de 1870, sous la Troisième République, c'est une manière de réinsertion de l'armée dans la République. Parce que, je le rappelle, et il va falloir d'ailleurs beaucoup de combats, y compris après 1870, je le rappelle que, en fonction de et en relation avec ce que j'ai dit, l'armée a été en France tout au long du 19e siècle profondément monarchiste, anti-républicaine au maximum, et a organisé donc ces différents coups d'État que j'ai organisés. Et sur la base de l'effondrement de l'Empire napoléonien, qui vient de la disparition rapide de l'armée à Sedan contre l'armée prussienne, la République est instaurée, il faut évidemment immédiatement réhabiliter l'armée. D'autant plus qu'on le voit bien, les meilleurs résistants à l'attaque allemande, c'est une fois de plus le peuple parisien, et quel peuple, puisqu'il est en train de réaliser la Commune. Donc il est urgent de passer, pour pertes et profits, on va dire, l'incapacité de l'armée française à résister, même à provoquer d'ailleurs, l'armée prussienne, et la réintégrer immédiatement et au plus vite dans la République. Et parce que l'armée continue à être, même après 1870, profondément anti-républicaine. Bon, vous vous souvenez quand même que jusqu'à la fin du siècle, avec l'affaire Dreyfus en 1894-95, elle organisera directement une tentative de renversement de la République sous le couvert, disons, de l'antisémitisme. Donc il faut réintégrer cette armée dans la République, et pour des raisons économiques sur lesquelles on pourrait revenir, mais que je ne détaille pas, l'expansion coloniale, l'expansion territoriale à l'extérieur, que quelqu'un comme Rosa Luxembourg, par exemple, a particulièrement mis en évidence, devient une nécessité. Sur la base de cette nécessité que pratiquent tous les pays capitalistes de l'époque, enfin en tout cas les principaux pays capitalistes européens de l'époque, sur la base de cette nécessité, on va donner à l'armée non seulement un rôle militaire, mais un rôle politique. Par exemple, je mentionne dans le livre que de très nombreux administrateurs coloniaux étaient des militaires. Il va y avoir la fonction de pacification et de civilisation de ces hordes sauvages que sont les peuples colonisés d'Afrique. Si vous regardez de temps en temps, il y en a parfois d'excellents documentaires sur la chaîne LCP, où on peut voir des images d'archives de l'armée coloniale française de 1950, 51, 52, 53, 54, y compris après l'insurrection 55-56, où on fait croire aux téléspectateurs à l'époque que l'armée est en fait une armée de pacification et qu'elle est envahie, elle est agressée par des méchants félagas. Donc ce rôle de colonisation de l'armée, il dépasse le rôle simplement militaire et dans les théories contre-insurrectionnelles qui sont apparues dans les années 50 en France contre le peuple indochinois puis algérien. Mathieu Rigouste l'a montré dans son ouvrage, par exemple. On voit toute la réémergence de cette mission civilisatrice de l'armée, hein, qui n'est pas simplement l'armée de Massu ou de Le Pen et des tortionnaires, mais qui est aussi l'armée qui se veut civilisatrice. Donc, revenir sur la colonisation pour montrer combien la réintégrer l'armée, parce que l'armée était en difficulté après l'écrasement de la Commune en 1871, réintégrer l'armée, ça consistait à l'époque, à lui donner cette mission civilisatrice, on va dire, de coloniser les peuples sauvages.
Tu as parlé de la guerre contre-insurrectionnelle, tu le mentionnes dans ton livre et tu développes un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette notion de guerre contre-insurrectionnelle? Comment c'est apparu? Et tu expliques aussi comment les militaires français l'ont exporté finalement.
Oui, ça consiste précisément, je ne suis pas spécialiste, et comme tu l'as vu, je m'appuie sur les lectures de Rigouste et d'autres auteurs, hein, cette contre-insurrection, c'est presque, on pourrait dire, ce que les Américains ont réitéré à la fin des années 90, début des années 2000, sous le terme que j'ai traduit en français, de gagner les cœurs et les esprits, quoi, hein, hearts and minds. Hein, c'est-à-dire que il faut retourner contre ceux qui nous contestent, les terroristes, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les peuples en fait en insurrection et les armées qui sont organisées pour la libération nationale. Il faut retourner contre ces terroristes, pas simplement les moyens violents, mais les moyens de pacification, quoi, hein. L'impérialisme humanitaire qui a jailli après la disparition de l'URSS dans les années 90 et au nom desquels il fallait aller justement civiliser les peuples barbares qui refusaient les bienfaits de la mondialisation. À l'époque, c'était ça, hein, les bienfaits de la mondialisation qui apportaient à la fois la prospérité, la paix et l'économie de marché. Hein. Cette théorie contre-insurrectionnelle dans laquelle il ne s'agissait pas simplement de combattre les armes à la main, les terroristes, mais aussi d'infiltrer en quelque sorte, hein, d'infuser dans la population les valeurs de la civilisation, si possible chrétienne, c'est une théorie qui a effectivement été exportée, comme vient de le dire, hein, jusqu'au début des années 2000, finalement, sous la forme de l'impérialisme humanitaire.
Ce moment de la colonisation, donc, qui va s'achever, comme on le sait, enfin, qui va s'achever de manière officielle avec l'accession à l'indépendance des États, des pays anciennement colonisés, finalement, il va avoir une sorte de coup pour l'armée française qui va quand même essayer d'en tirer. De tirer de cette situation une nouvelle justification à son existence et développer son potentiel, de le maintenir et en même temps de le moderniser. Et qu'est-ce qui va se passer donc au tournant des années 60, lorsque les États africains en particulier vont accéder à l'indépendance? Comment va s'organiser la société française postcoloniale, en particulier à travers la France Afrique, pour maintenir une armée post-coloniale? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Oui, alors là on aborde la période qui reste actuelle, hein, celle de la naissance ou de la préparation de la naissance de la Ve République, qui est née donc d'un coup d'État militaire, une fois de plus, en mai 1958, pour comprendre ce qui se passe au tournant de la fin des années 50, début des années 60, il faut remonter à une période qui est vraiment peu d'années avant, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il faut comprendre qu'une fois de plus, j'allais dire, l'armée française s'est débandée en quelques semaines, hein, alors, malgré les crédits militaires dont elle disposait. Et non seulement elle s'est débandée sur le plan militaire, mais elle s'est politiquement profondément, comment dire, a été profondément discréditée par l'implication du plus prestigieux d'entre eux, le maréchal Pétain, et comme les travaux américains l'ont montré, d'une bonne partie de l'état-major français. Hein. J'insiste sur les travaux d'historiens américains parce que...
C'est Paxton ou...
Paxton, ouais. Michael Marus aussi, hein, Marus, et puis d'autres encore. Puis il a fallu attendre les années 70 pour que, disons, les travaux français commencent, de jeunes historiens français commencent à émerger. Mais le poids de l'historiographie imposée par René Raymond et Sciences Po ont fait le silence total, non seulement sur la participation de l'État vichiste à l'extermination des Juifs et des Tziganes et des homosexuels, mais aussi sur le rôle de l'armée française. Donc il faut bien comprendre qu'on vit en 1958 sur une armée qui est profondément discréditée. Et elle est d'autant plus en 1958 qu'elle n'a pas simplement discrédité par son comportement pendant la guerre, elle est discréditée par l'embourbement qui, à l'époque, paraît absolument aller contre l'histoire de la guerre d'Indochine et du début de cette guerre d'Algérie qu'on n'arrive pas à finir parce qu'il y a des peuples qui vous empêchent de la finir proprement, c'est-à-dire par leur extermination. Donc il faut bien comprendre ce contexte dans lequel l'armée française est sortie de la guerre, puis ensuite s'est lancée dans les aventures coloniales, effectivement presque à contre-courant des autres pays. Les Anglais ont compris beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'il fallait mieux essayer d'acheter les gouvernements nationaux par l'argent plutôt qu'essayer de les gagner par les cœurs et par les armes. L'armée française est presque à contre-courant. On sait aujourd'hui que l'administration américaine a soutenu, y compris financièrement, le FLN algérien. Enfin, c'est de notoriété. Bon, je passe sur l'aventure de Suez, hein, que les Anglais, eux, ont assimilé. Ils ont compris qu'en voulant renverser Nasser, ils se mettaient à dos, disons, des centaines de millions d'acheteurs potentiels. Donc, ils ont très vite compris qu'il fallait en finir avec l'aventure coloniale. La France a continué, donc, dans cette aventure coloniale. Donc, il faut bien comprendre que c'est ce discrédit qui existe en 1958. Et De Gaulle va s'appuyer sur, disons, ce qui se passe en Algérie pour essayer de redonner au capitalisme français un horizon qui soit un peu moins borné que simplement la défense de nos colonies. Hein. Il faut reconnaître et il faut savoir gré à De Gaulle, c'est essentiellement là-dessus que la plupart des hommes politiques et des dirigeants lui sont redevables, c'est d'avoir eu une vision au-delà même de l'armée pour le capitalisme français. Il a toujours lié les deux, on pourra y revenir, il a toujours lié le prestige de l'armée, la solidité de l'armée et le capitalisme français, mais il n'a jamais subordonné l'un à l'autre, il les a toujours étroitement mêlés.
On va mettre une...
Pour canaliser nos colères dans des urnes soporifiques.
Toujours Radio Libertaire, la société dans tous ses états. On vient d'écouter la compagnie Joli Môme qui interprétait la chanson Chômeur précaire. Donc avec nous, Claude Serfati pour son livre L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. Dans une première partie de l'émission, on a retracé un petit peu l'histoire de l'imbrication de l'institution militaire dans l'État français et ses implications politiques. On va aborder maintenant une autre question que tu développes longuement dans ton livre et qui est au cœur de ton ouvrage, qui est l'implication cette fois de l'armée, de l'armement et de l'économie française. Tu montres bien qu'il y a une conjonction très forte entre le développement de l'appareil militaire par l'État français et la structure économique de l'État. On sait que l'État français a été et est encore très interventionniste dans le domaine économique. Mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'un des moteurs de l'industrie française, de la recherche et du développement dans l'industrie, c'est l'armée et l'armement. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre, est-ce que tu peux nous éclairer sur les origines d'abord de cette conjonction et puis sur les spécificités particulières à cette situation française en la comparant éventuellement avec d'autres situations à l'étranger?
Oui. Alors, cette question me permet précisément de faire la transition avec la question précédente avant la pause musicale. De Gaulle, en réglant la question algérienne, a ouvert l'horizon au capitalisme français, un horizon mondial. Hein. Je cite dans l'ouvrage le fait que la fraction fascisante, colonialiste, qui a fait le coup d'État, aussi bien en 58 pour le porter au pouvoir qu'en 61 pour tenter de s'opposer à son pouvoir une fois installé, au pouvoir de Gaulle, expliquait que cette fraction fasciste, colonialiste, on n'avait pas besoin de l'arme atomique, il suffisait de défendre nos colonies. Bon, comme je le dis, rien ne pouvait être plus étroit comme vision pour un horizon pour une classe dominante que de continuer à s'arc-bouter en exploitant et en opprimant 8 à 9 millions d'Algériens. De Gaulle avait une vision encore une fois, de réintégrer l'armée pour donner au capitalisme français son horizon mondial. Et il a réintégré l'armée, j'insiste, hein, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'armée n'a pas été exclue par le coup d'État et ensuite la répression que De Gaulle a organisée contre les colonels fascistes. Il a effectivement mis au pas les colonels fascistes, mais pour mieux réintégrer l'armée dans la Ve République, dans les institutions qu'il a mises en place en 1958. Et il a réintégré l'armée par trois canaux principaux. Le premier, c'est de doter la France de l'arme nucléaire. C'était une condition sine qua non. La France était déjà dans cette position privilégiée et absolument asymétrique, pour ne pas dire scandaleuse, d'être membre du Conseil membre permanent du Conseil de sécurité avec la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis. Cette position vraiment privilégiée qui est un des instruments de perpétuation de domination de l'ordre mondial, mais elle avait été quand même par accroc, elle avait perdu la guerre, c'est pas De Gaulle qui avait vraiment libéré la France, au mieux c'était les résistants, les dizaines de milliers de résistants qui s'étaient organisés, et surtout les armées alliées. Hein. Donc l'arme nucléaire vient consolider ce rôle qui a été donné à la France un peu par défaut de membre permanent du Conseil de sécurité. L'arme nucléaire vous met vraiment dans le camp des super grands, on va dire.
Hein. Il y a une vision quand même portée par De Gaulle de la grandeur de la France. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, cette obsession de la grandeur qui doit s'appuyer, entre autres, sur l'armée, sur les relations avec les colonies, puis les ex-colonies, et puis sur, c'est De Gaulle qui va mettre ça en place, l'arme nucléaire.
C'est ça. La grandeur de la France, De Gaulle n'était pas un économiste. Donc quand je dis donner un horizon au capitalisme, ce n'était pas étroitement macronien comme perspective. Enfin, je dirais, ce n'était pas livrer la France à McKinsey, par exemple, hein, ou faire de la France une nation de start-up. La vision de redonner un horizon au capitalisme français, ça voulait dire effectivement rétablir la grandeur. Donc, y compris, et de façon d'ailleurs indissociable, sa grandeur militaire. D'où le nucléaire. Le deuxième pilier pour réintégrer l'armée dans la Ve République, c'est le corps expéditionnaire. Hein. Ce corps expéditionnaire, il n'a pas disparu. On estime, il n'y a même pas de comptabilité, on pourra revenir sur le caractère très antidémocratique de la Ve République. Il n'y a aucune comptabilité qui est tenue nulle part de la centaine, 120, 110 interventions militaires que les armées françaises ont pratiquées depuis les années 70.
Ça c'est incroyable. On connaît, moi, jusqu'à présent, je savais qu'il y avait eu des expéditions militaires. Certaines étaient quasiment secrètes, comme la guerre au Cameroun qui a été menée jusqu'en 65. Une guerre effroyable avec des massacres, des morts de civils, etc. Menée au nom de la grandeur de la France et de la présence de la France en Afrique, avec ces fameux réseaux de France-Afrique, Focard, etc., des choses qu'on ignore pour la plupart. Mais le nombre que tu cites, plus de 100 interventions depuis les années 60, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. Alors, j'ai glané ces chiffres au hasard de lecture de rapports parlementaires, mais ces rapports parlementaires ne sont pas fiables. C'est un effort qu'ils ont fait, mais c'est absolument pas une base scientifique. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est que d'une certaine manière, les peuples qui sont victimes de ces interventions militaires connaissent le 49-3, eux, depuis très longtemps. Hein. Là, le Parlement ne discute jamais des interventions militaires. C'est pas simplement une sorte de décision subjective. C'est que le Parlement français ne doit discuter de l'intervention militaire que si on l'appelle guerre. C'est l'article 34 ou 35, j'ai oublié le numéro. Mais toutes les guerres que la France a menées, que moi j'appelle des guerres, sont toujours appelées des interventions militaires, et en général, sous le mandat de l'ONU, là on voit bien à quoi sert la communauté internationale, comme on dit, hein, c'est-à-dire que ça a toujours été pour le bien et autorisé par l'ONU. Donc il n'y a aucune comptabilité, non, le 49-3 pour les guerres, ça existe depuis 1958. Le corps expéditionnaire, donc, est le deuxième pilier, et le troisième, j'y viens, c'était le sens de ta question, c'est original à De Gaulle, et ça, il le comprend par rapport aux enjeux économiques du monde de l'époque, on ne parle pas encore de mondialisation, c'est donner un rôle économique à l'armée. Hein. Ce rôle économique, je ne dis pas qu'il n'avait pas existé au XIXe siècle, il y avait des marchands de canons qui s'enrichissaient, Schneider en particulier, et quelques autres, mais ce n'était pas le cœur de leur activité. Schneider vivait de bien autre chose, simplement, que des aciers spéciaux nécessaires à la marine ou aux chars. Hein. De Gaulle va vraiment, là, instaurer un système original, on peut dire original à la France de nouveau, à savoir mettre au cœur même de sa politique industrielle, qu'on appelle un peu pompeusement une politique technologique, les objectifs de grands programmes militaires, à savoir le nucléaire, l'aéronautique, le spatial, l'électronique de défense. Donc là, il y a vraiment une originalité, parce que De Gaulle va asseoir, j'allais dire, matériellement, au sens le plus matériel du terme, c'est à savoir sur l'économie, il va asseoir matériellement la légitimité de l'institution militaire. Alors, bien sûr, c'est pas le plus important que les généraux aillent, disons, pantouflés quand ils sont à la retraite. Il y a cette dimension qui est importante mais qui est presque subjective. Quand je dis qu'il met au centre l'institution militaire, c'est effectivement ses grands programmes. Aujourd'hui, on voit à quel point l'industrie française, on peut y revenir si tu le souhaites, à quel point l'industrie française en général est infusée en quelque sorte par ses grands programmes militaires. Je donne juste un exemple chiffré pour ne pas trop abrutir l'oreille des auditeurs. On considère que l'innovation, c'est aujourd'hui un moteur de l'activité économique. Je ne discute pas évidemment de ses dégâts, mais enfin bon, on va l'admettre comme un a priori qu'il faut chercher des innovations technologiques. Et pour faire des innovations technologiques, il faut faire ce qu'on appelle de l'activité de recherche et développement. Eh bien, en France, un cinquième, enfin plus exactement 22 à 24% des dépenses de recherche, développement de toutes les entreprises françaises, je dis bien de toute l'industrie française, est réalisé par 8 grands groupes qui sont liés au contrat militaire. Je pense à Thales, Airbus, Safran, le CEA, etc. Ils sont 8 seulement. On a dans aucun autre pays une image où l'innovation technologique soit à ce point, disons, orientée vers des besoins militaires qui sont en général inefficaces pour aller sur les marchés civils.
On le sait depuis longtemps, la France se classe dans le peloton de tête des pays exportateurs d'armes. Alors, on se dispute pour savoir si on est le troisième, le cinquième, enfin, peu importe, mais en volume, c'est quand même très, très important. Il n'y a pas longtemps, une commission et des enquêteurs avaient mis en avant le fait que les armes envoyées aux Émirats Arabes Unis servaient à mener la guerre terrible que mène depuis 2015 l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis contre le Yémen.
Alors, le fait que les exportations d'armes soient brillantes est structurellement lié à la Ve République. Dès 1960, le bras industriel du ministère de la Défense, qui s'appelle la Délégation Générale pour l'Armement, la DGA, a dit qu'il fallait que la France exporte 30% de sa production, sinon elle ne pourrait pas continuer à produire des armes dans des conditions financières raisonnables. Donc, l'exportation d'armes est structurellement inscrite dans le modèle français. Industriel d'armement. Alors, le journal Disclose a révélé il y a deux ans, maintenant peut-être, sur la base de fuites organisées au sein même de l'appareil d'État, que ces armes françaises, comme tu le mentionnes, pouvaient valoir à la France des accusations de crimes de guerre, non pas crimes contre l'humanité, mais de crimes de guerre, c'est déjà beaucoup. Et sur cette base, très péniblement, bien sûr c'est avéré par des photos, enfin je ne discute pas la véracité de l'enquête de Disclose qui de toute façon s'est appuyée sur des documents produits par des segments de l'appareil d'État français. Et très péniblement, une commission parlementaire a été montée avec Jacques Maire et Michel Taburot, macronistes et socialistes, pour contrôler les exportations d'armes. Parce qu'effectivement, ces gens-là avaient le cœur sensible et pensaient quand même que servir à exterminer des enfants ou la population yéménite, c'est quand même pas très bien, même si les exportations d'armes, il faut en réaliser. Donc ils ont passé un an, ils ont auditionné beaucoup d'ONG, enfin ils ont fait un travail réellement de parlementaires, qui s'est conclu par 21 ou 22 propositions, dont la proposition phare était de créer une commission parlementaire qui pourrait contrôler les exportations d'armes. C'est une situation qui existe en Grande-Bretagne, qui n'empêche pas la Grande-Bretagne d'exporter massivement, qui existe bien sûr aux États-Unis où les contre-pouvoirs sont très importants, qui existe en Allemagne, enfin, qui existe dans la plupart des pays que on qualifie généralement de démocratiques et d'état de droit. Le lendemain de la publication de ce rapport, qui avait quand même nécessité plus d'une année de travail, une fuite a été organisée dans la presse par les journalistes spécialisés dans le militaire qui venaient de la Direction Générale du Renseignement qui disait que si jamais on acceptait cette proposition, on mettrait en péril la sécurité de la France. Ouais. Donc immédiatement, malgré un an et demi de travail de ces deux parlementaires et de rapports qui étaient extrêmement modestes dans son ambition, immédiatement, le lendemain, l'armée faisait savoir qu'il n'était même pas question qu'on discute, non pas qu'on vote, mais qu'on discute et qu'on mette à l'ordre du jour ce rapport parlementaire qui avait été rédigé donc par maire et Taburau. Donc là, on a une image concrète, hein, je la saisis parce que c'était le sens de ta question, on a une image concrète, mais il y en a bien d'autres, de, disons, la centralité de l'institution militaire qui décide que, non, le Parlement peut discuter tout ce qu'il veut, mais c'est quand même elle qui décide.
Oui, là, on voit bien donc cette opacité hein, qui règne dans cet espace où se mêlent les intérêts économiques, les intérêts militaires, les intérêts de puissance. Une question que je me suis posée à la lecture de son livre, c'est comment tu avais pu travailler, comment tu avais pu avoir accès, compte tenu donc de cette difficulté, les parlementaires eux-mêmes ont du mal à accéder aux sources. Comment tu peux, toi, chercheur, enseignant, avoir accès à des documents comment tu pratiques concrètement pour publier donc cet ouvrage et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer?
Alors, j'avais la chance d'être fonctionnaire titulaire avec un emploi garanti à vie et d'avoir ensuite une retraite comme aujourd'hui. J'ai jamais ressenti le besoin de travailler dans le consulting et encore moins pour moi, ça a été évidemment une question de principe, hein, de risquer le moins de conflits d'intérêts en acceptant des contrat du ministère de la Défense, alors que j'avais une certaine réputation, une certaine audience dans le sérieux de mes travaux, qui n'étaient pas simplement considérés comme critiques, mais relativement fiables dans ce que je disais. Donc, j'ai toujours travaillé sur source ouverte, j'ai toujours refusé d'une manière ou d'une autre donc d'avoir des contacts institutionnels, je veux dire financiers en particulier, avec le ministère de la Défense. Donc, j'ai travaillé sur des sources ouvertes, et je pense que après quelques dizaines d'années de travail, on peut dire que même en travaillant que sur des sources ouvertes, on peut finalement déduire un certain nombre de choses. Ces sources ouvertes, ce sont les rapports parlementaires. Hein. Alors bien sûr, on peut discuter la fiabilité de la répartition interne des crédits du ministère des Armées, enfin on l'appelle comme ça aujourd'hui, hein, du ministère de la Défense, mais on doit accepter, bien sûr, ou alors on aurait une vue à ce point critique de l'État français que les chiffres qui sont donnés au niveau du budget de l'armée lui-même sont relativement fiables, ils sont contrôlés par des contrôleurs généraux des finances publiques, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. Par contre, on peut bien, encore une fois, je le répète, discuter de l'affectation interne, des jeux internes qui échappent au contrôle parlementaire, mais ça, un certain nombre de parlementaires qui essayaient de faire leur travail, le signalaient régulièrement. Enfin, je veux dire par là que des parlementaires, normalement, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties, préparent leur budget en posant des questions au ministère concerné, et c'est une obligation des ministères de répondre. Et combien de fois, je ne vais pas vous embêter en énumérant la liste, mais combien de fois les rapporteurs au ministère de la Défense, qui étaient des gens qui défendent le système militaro-industriel, il n'y a aucun doute là-dessus, constataient que le ministère de la Défense avait refusé de répondre. En général, c'était sur l'utilisation interne des fonds. Mais pour le reste, savoir que l'armée représente tel budget, que les groupes de l'armement sont obligés de publier des rapports dans lesquels ils publient souvent, parfois, la répartition militaire et civile, même si il la modifie un petit peu, hein, il la toilette un petit peu pour différentes raisons. D'ailleurs, ils peuvent la toiletter, ces rapports d'activité, ils peuvent les toiletter dans un sens ou dans l'autre, gonfler la partie militaire ou pas. On a quand même des ordres de grandeur qui sont réels. Enfin, je pense que cela, plus un travail qualitatif d'entretien qui vous permet de mettre un peu en perspective ces chiffres, ça m'a toujours suffi, et il me semble que ça n'a pas été dommageable au sérieux, on va dire, de mon travail de recherche.
On va parler un tout petit peu de chiffres. La loi de programmation militaire, donc c'est une loi qui fixe le budget alloué à la défense et à l'armement. Alors, c'est tous les 4-5 ans, je ne sais plus.
Oui, ça dépend, hein, sont quadriennaux ou quinquennaux.
Voilà.
Oui.
Vient d'être à nouveau révisé et le président Macron a fait une annonce absolument incroyable avec une augmentation des budgets militaires, prenant prétexte justement de la situation internationale avec le conflit en Ukraine. On peut en dire un mot pour avoir une idée des ordres de grandeur et voir ce que ça représente.
Oui, malheureusement, j'allais dire, ça dépasse l'entendement pour beaucoup de gens, mais c'est un de mes espoirs et une de mes attentes. La loi de programmation militaire, normalement, doit venir à l'ordre du jour, là, de façon imminente, hein, quand le problème des retraites sera résolu. J'ai peur que les chiffres ne finissent par plus rien signifier, ou plutôt, par leur énormité, montrent que l'institution militaire, effectivement, compte beaucoup plus que 2 ans de plus de travail pour des millions de gens. Le Macron a tranché en annonçant, il y a à peine 3 semaines, que la loi de programmation militaire 2024-2030 recevrait 413 milliards d'euros. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça signifie grand-chose, mais ça donne une idée. Rappelez-vous qu'on demande aux gens, on exige des salariés qu'ils travaillent 2 ans de plus pour un déficit de la sécurité du régime de retraite qui serait de 10 milliards en 2030. Je parle ici de 413 milliards, soit une augmentation de plus de 110 milliards, une augmentation elle-même, hein, je dis bien, de plus de 110 milliards, on peut sans doute prendre 10 milliards pour les retraites, une augmentation de 110 milliards par rapport à la loi de programmation actuelle. Or, la loi de programmation actuelle, 2017-2023, la loi de programmation actuelle en cours, est déjà en augmentation de plus de 30% par rapport à la précédente. C'est-à-dire qu'on a un quasi-doublement du budget, on va dire, depuis 2015. Hein. On va passer à peu près à 60 milliards, là où on était, disons, à 30, 32 milliards, disons, à l'arrivée de Macron, ou juste avant, en 2016. Donc il faut se représenter ces masses, encore une fois, et je pense que c'est mon espoir, les auditeurs et au-delà comprendront que ces masses sont absolument exorbitantes par rapport à ce qui est aujourd'hui discuté pour les soignants, ou pour leur refuser plutôt des créations de postes de soignants ou d'enseignants, par exemple, qui seraient beaucoup plus utiles socialement.
J'ai lu incidemment ce matin, je crois, c'est une comparaison. Alors, les budgets militaires sont exposés partout, hein, sur le prétexte de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Mais la France est à la corde, là, puisque partout ailleurs, les budgets augmentent entre 6, 10, 15%. En France, ça augmente de 30%. Je parle des dépenses militaires.
C'est ça. C'est l'augmentation qui est programmée, voilà, ou qui sera probablement votée. Je dis probablement parce que ça a toujours été le cas. Je dis d'ailleurs qu'il y a un consensus, hein, qui s'est toujours établi, oui, sous la Ve République, entre la droite et la gauche. En général, la gauche finit par s'abstenir quand la droite est au pouvoir, et en général la droite finit par s'abstenir quand la gauche est au pouvoir sur les lois de programmation militaire. Mais évidemment, qui ne dit mot qu'on sent, il y a évidemment une convergence totale, et je crains, à lire régulièrement les rapports parlementaires qui sont publiés depuis 2 ans maintenant, et en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à lire ce que je lis, y compris de parlementaires de gauche, je crains que le consensus ne continue sur cette loi, à moins que la crise sociale que nous vivons aujourd'hui remette à la raison un certain nombre de ceux qui parlent au nom des salariés.
Pas de légion d'honneur au col accroché, pas eu les faveurs du rouge canapé, le vieux monde qui pleure, ça fait pas rêver. Pas de pote directeur d'une radio branchée, pas devenu chanteur de soupe en anglais, pas assez vendeur pour l'audience télé. Je ferai jamais mon beurre, cette fois c'est râpé. Pourtant vous êtes là, de l'amour dans le cœur, c'est comme un cadeau.
bienvenue dans mes chansons vivantes. Mais aujourd'hui qui chante? Meilleure vente d'album, j'aurais pas connu. Pas montré ma pomme aux nuits, m'as-tu vu? Premier sur le podium, trop tard, c'est foutu. Pas assez showbiz, on me l'a toujours dit. Le disque est en crise, faut du compromis. Ma carrière s'enlise, mais je dors bien la nuit. Y'a dans mes valises qu'un peu de poésie. Et puis vous êtes là, de l'amour dans le cœur, c'est comme un cadeau du bonheur. Bienvenue dans mes chansons militantes. Mais aujourd'hui qui chante? Pas de fille dans le décor qui tortille du bas. Pas bouger mon corps, mais bon, vaut mieux pas. Pas trop fait d'efforts, mille mea culpa. Pas d'eau dans mon vin, pas vendu ma peau. De regrets aucun, pas trahi les beaux, les presque frangins, François et Léo. De traverse les chemins sont tellement plus beaux. Et puis vous êtes là, de l'amour dans le cœur, c'est comme un cadeau du bonheur. Bienvenue dans mes chansons résistantes. Mais aujourd'hui qui chante? Toujours vous êtes là, de l'amour dans le cœur, c'est comme un cadeau du bonheur. Bienvenue dans mes chansons combattantes. Mais aujourd'hui qui chante? Chanson poilante, mais aujourd'hui qui chante.
Toujours Radio Libertaire, la radio de sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de la société dans tous ses états, avec aujourd'hui notre invité Claude Sarfati pour son livre « L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée ». On a fait une sorte de petit survol sur l'intrication de l'armée et de l'économie qui s'est développée tout au long des années 60 jusqu'à aujourd'hui, avec cette énormité des 413 milliards d'euros qui seront alloués lors de la prochaine loi de programmation militaire qui va courir donc jusqu'en 2030, hein, c'est ça ? Et on discutait là, hors antenne, pour essayer de comprendre, et je vais reposer la question à notre invité, à Claude Sarfati, pourquoi on dépense autant d'argent ? Quand on dépense de l'argent dans l'armement, en général, c'est pour un moment ou un autre, s'en servir, ou alors pour viser certaines stratégies. Quelle est la visée derrière tout ça ?
La visée, c'est celle que De Gaulle avait assignée, que j'ai rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire restaurer la grandeur de la France et à l'échelle mondiale, dans ce que j'appelle l'espace mondial, que je préfère au terme de mondialisation, dans l'espace mondial, vous avez deux composantes qui forgent le pouvoir d'un pays. C'est sa composante économique, ce qu'on appelle la compétitivité chez les économistes, hein, comme l'Allemagne, qui n'arrête pas d'avoir des excédents de vente, et de récolter beaucoup d'argent grâce à ses exportations qui sont nettement supérieures à ses importations. Puis vous avez une composante militaire, enfin politico-militaire, on va dire, enfin, qui veut dire quand même militaire, quoi. Et ces deux composantes, eh bien, vous les utilisez dans les pays de façon différente. L'Allemagne, pour des raisons historiques qu'on connaît, compte essentiellement, je dirais pas exclusivement, essentiellement sur son levier économique, quoi. Hein. La Russie, d'une certaine manière, on le voit aujourd'hui, compte essentiellement sur son levier militaire. Et la France, disons, est dans une situation assez originale, un peu à l'image des États-Unis d'ailleurs, sauf que malheureusement pour elle, elle ne joue pas dans la même catégorie, où son levier économique et son levier militaire sont étroitement intriqués dans son positionnement mondial. Vous ne pouvez pas dissocier dans les réussites économiques françaises ce qui serait purement de l'économie, comme la machine-outil allemande, ou comme les composants allemands, ou comme l'instrumentation médicale allemande, de ce qui serait réellement militaire. La France est forte dans l'aéronautique, elle est forte dans l'espace. Bon, j'exclus effectivement les cosmétiques, qui sont quand même le produit, disons, du marché du luxe. Des produits de Paris, comme on disait à la fin du 19e siècle, hein, des produits parisiens. Donc la France est forte à la fois militairement et économiquement, ou elle est faible à la fois économiquement et militairement. Je le dis, encore une fois, c'est un peu à l'image des États-Unis, sauf que la puissance des États-Unis leur permet de concilier de façon beaucoup plus contraignante et positive pour eux ce bras militaire et ce bras économique. Donc, la France est en recul industriel de façon considérable. On n'a pas le temps de l'aborder ici, j'en donne quelques éléments dans l'ouvrage, mais la catastrophe industrielle que connaît la France pratiquement depuis les années 2000, c'est quelque chose qui semble irréversible et que, bien sûr, la politique industrielle de Macron n'a pas arrêté. Et devant ce déclin industriel, c'est le bras militaire, la composante militaire, qui devient aujourd'hui un élément central pour le maintien du positionnement de la France dans l'espace mondial. Bien sûr, la France continue à être un pays rentier qui tire de considérables profits, disons, des implantations de ces grands groupes multinationaux. On va dire le CAC 40 pour aller vite. Il rapatrie chaque année près de 50 milliards. Mais ces 50 milliards d'euros, vous voyez bien, ils ne vont pas du tout dans l'industrie française, ils vont essentiellement au financement des dividendes des actionnaires. Donc, il y a une présence française économique, mais c'est une présence rentière, et c'est une présence qui, sur le plan industriel, est extrêmement déclinante. Et en particulier, d'ailleurs, je n'ai pas le temps de le développer ici, et en particulier en Europe, où on est vraiment maintenant devenu déficitaire dans nos échanges commerciaux, ce qu'on vend ou ce qu'on achète, avec la quasi-totalité totalité des pays européens. Et le bras militaire, eh bien, est un bras qui aujourd'hui, lui, peut continuer à être activé. Donc il y a une sorte de course en avant, disons, dans le militaire, qui bien sûr est alimentée par le souhait de l'institution militaire elle-même, par le, disons, les pressions du système militaire ou industriel, des industriels de l'armement, mais qui correspond aussi, j'allais dire, hélas, aussi à une situation du capitalisme français qui aujourd'hui est extrêmement déclinante et pour lequel, je le répète, la détention de l'arme nucléaire et la possibilité de parler comme membre permanent du Conseil de sécurité, l'intervention militaire en Afrique ou ailleurs, demeure un des atouts, en quelque sorte, de son avantage compétitif dans le monde.
Il y a aussi une transformation des enjeux stratégiques mondiaux. Alors, on ne va pas faire de la politique comme ça, de la prospective, ou c'est pas le but de l'émission. Le but de notre émission, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, et on va finir par arriver au terme de l'émission pour exposer vraiment les dangers et les tentations sécuritaires très fortes. Mais il y a au niveau mondial un bouleversement des rapports et des conflits interétatiques entre les puissances capitalistes qui s'affrontent, et en particulier un déplacement, et on le sait depuis quelques années déjà, mais là c'est en train de s'accentuer, vers la zone Indo-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. La France semblerait vouloir jouer un rôle dans ce conflit économique et peut-être militaire.
Voilà, exactement. Si on accepte l'hypothèse qui fonde mes travaux et qui les fondent de plus en plus compte tenu de l'évolution internationale, que l'espace mondial il est structuré à la fois par une concurrence économique et par des rivalités géopolitiques et donc militaires, on comprend que les interactions entre l'économie et le politique, ou le géopolitique et le militaire, soient devenues de plus en plus fortes aujourd'hui. J'ai consacré un certain nombre d'écrits là tout à fait récemment et qui sont accessibles si certains auditeurs sont intéressés sur cette interaction dans la compétition mondiale entre le militaire et l'économie. Il est essentiel, et je crois que c'est bien de le signaler, que le centre de gravité de l'économie mondiale, on va dire, et donc géopolitique mondiale, se déplace vers l'Indo-Pacifique. Et les États-Unis l'ont bien compris, plus l'économie mondiale va prospérer et plus la Chine va prendre de l'ascendant, parce que sa population, ses capacités technologiques, enfin tout ce que vous voulez, montrent qu'elle est sur une phase ascendante. Et respectivement, ou réciproquement, on pourrait dire, les États-Unis subissent, et ils l'enregistrent déjà, mais il ne peut que s'accélérer si l'économie se déroule dans de bonnes conditions pacifiques, enregistre déjà un déclin, un recul face à l'économie chinoise. Sur le plan économique et purement économique, il n'y a pratiquement aucun doute, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Malheureusement, l'espace mondial n'est pas fait que d'économies dans un marché pur et concurrentiel sur lequel les économies et les pays s'affrontent en s'envoyant des roses. C'est fait évidemment avec l'insertion du militaire. Et on voit aujourd'hui, on voit depuis plusieurs années, Trump a commencé, les commentateurs politistes qui entrent les plateaux disaient « Oh, ça va arrêter avec Biden », Trump avait commencé à cibler la Chine comme l'ennemi principal. On voit bien que Biden non seulement reprend ce credo, mais l'accentue. Hein. C'est pour vous dire la profondeur, en fait, de la hantise et de la peur des classes dominantes américaines, c'est que précisément, le pacifiste Biden est plus radical contre la Chine même que ne l'était Trump. Donc, il faut bien comprendre que ce qui va aujourd'hui structurer, indépendamment des luttes sociales, des luttes de libération nationale, hein, bien sûr, ce qui va structurer l'espace mondial, c'est cet antagonisme croissant entre la Chine et les États-Unis. Et j'ai fait cette longue entrée en matière parce que, depuis quelques années, les livres blancs français, pratiquement depuis 2013, de façon très timide, 2015-2016, est accentué par Macron, mais Macron ne l'a pas inventé, la France s'est inventée, s'est trouvée, on va dire, pour être un peu plus neutre, s'est trouvée trouver un horizon indo-pacifique. C'est-à-dire qu'elle s'est rappelée qu'elle possède ce qu'on peut appeler des colonies en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, et que ces colonies, je le rappelle, et surtout elle le rappelle constamment, la France et ses documents militaires, fait d'elle la seconde puissance maritime du monde. C'est-à-dire qu'un pays comme la France, qui fait 550 000 km², ajoutons les colonies françaises d'Asie-Pacifique, on devrait arriver à 600 000, et bien par les lois internationales, elle possède 8,5 millions de km² dans des eaux maritimes, qui sont à la fois des eaux géopolitiques, où vous pouvez faire circuler à l'abri de toute menace vos sous-marins nucléaires, c'est le cas dans l'océan Pacifique, où il y a des fonds sous-marins qu'on peut espérer exploiter. Donc il y a là un horizon, si vous voulez, qui est très séduisant au moment où on voit l'enlisement de l'armée française en Afrique. Il n'est pas question un seul instant que l'armée française s'en aille, à moins qu'elle y soit expulsée manu militari, mais il est évident que l'objectif de Macron et de l'armée française, c'est aujourd'hui de maintenir les troupes qui sont dans le Sahel. On change de pays parce que certains pays ne veulent plus de nous, mais on continue à en chercher d'autres. Mais le Sahel ne peut plus, maintenant on le voit bien depuis quelques années, ne peut plus être le seul horizon international de ce qu'on a appelé tout à l'heure la grandeur de la France. L'horizon Indo-Pacifique, c'est l'espoir que par la possession de la Nouvelle-Calédonie et accessoirement, disons, de la Polynésie française, la France pourra jouer un rôle militaire, bien sûr. Économique, il est très faible, très très faible. J'ai documenté un petit peu ça dans l'ouvrage, mais j'avais beaucoup travaillé là-dessus avant. L'implantation économique de la France en Asie est très très faible par rapport à l'Allemagne, par exemple, même par rapport à l'Italie. Mais espérer jouer un rôle sur le plan militaire, puisque, comme on le sait, la France possède aujourd'hui une des meilleures armées du monde. Donc l'horizon Indo-Pacifique, c'est la construction qui va sans doute se renforcer dans la discussion de la loi de programmation militaire qui doit être discutée à partir de mars ou d'avril maintenant. C'est un nouvel horizon pour l'armée française et pour la grandeur de la France. Je pense bien sûr que c'est un horizon illusoire qui n'empêchera pas la France de décliner, mais c'est en tout cas un horizon qui peut justifier, au nom des guerres hybrides, des nouvelles guerres qui se mènent, eh bien, de dépenser 413 milliards pour les prochaines 6 années.
On va revenir dans les frontières de l'Hexagone et pour aborder dans le quart d'heure qui nous reste la question qui, à nos yeux, est la plus concrète, puisqu'elle est là quotidienne, c'est celle de l'instauration, de la mise en place, et on le voit depuis quelques années, depuis les Gilets jaunes, peut-être même avant, depuis la loi travail, d'une forme d'autoritarisme vertical, dont Macron est la dernière incarnation, mais ça n'est pas lié ni à sa personnalité, ni à l'individu en lui-même, mais c'est vraiment, et tu le montres bien dans ton livre, structurellement lié à au mode de fonctionnement des institutions nées de la Ve République, avec, tu le dis clairement, on est en marche. On se rappelle qu'En Marche était le premier parti qu'avait lancé Macron. On est en marche vers un État militaro-sécuritaire. Alors, j'ai appris quelque chose, j'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, dans ton livre, mais une chose que j'ignorais complètement et que je pense que beaucoup, beaucoup d'entre nous et de nos auditeurs ignorent, c'est cette manifestation qui a eu lieu 2 mois, jour pour jour, avant la prise du pouvoir par De Gaulle, le 13 mars 1958, une manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale, qui nous rappelle ce qui s'est passé en mai 2021.
Oui, si l'institution militaire est la véritable colonne vertébrale de l'État, et donc des rapports sociaux en France, indirectement, la police joue un rôle ascendant pratiquement depuis sa nationalisation, au sens propre du terme. Elle est devenue police nationale sous Vichy, et cette loi, on s'est empressé de la continuer après 1945, et elle a pris de plus en plus d'ampleur. Et dans la crise politique qui se dessinait dans la 4e République, crise politique qui était due pour l'essentiel à l'incapacité des parlementaires à régler la question indochinoise d'abord, puis algérienne, donc l'hésitation à franchir le pas, disons, d'accorder l'indépendance, la police a tenté de fomenter un coup d'État en faveur de De Gaulle, c'était clairement en faveur de De Gaulle. Effectivement, le 13 mars, je crois, 58, il n'y a pas que les militaires qui se sont révoltés à Alger, qui étaient prêts à venir sous le nom de code insurrection, passer par la Corse pour venir en France. Il y a aussi la police, police qui a participé, disons, à ce démembrement de la 4e République agonisante. La police, elle avait une expérience. Hein, en 58, on est à peine 18 ans, enfin 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, où la police avait forgé, disons, des armes dans le cadre de l'État Vichy pour participer, disons, aux rafles des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et des militants politiques. Donc, 58, c'est quand même la même période historique, on va dire, hein, que la Seconde Guerre mondiale. La police a joué ce rôle et même s'il a été secondaire par rapport à l'armée, parce que encore une fois les deux corps ne se comparent pas, on peut faire l'analogie avec effectivement ce que la police française a tenté d'organiser en 2021, c'est-à-dire finalement une manifestation contre le pouvoir judiciaire. Or on sait depuis Montesquieu que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et sa police d'une part et la justice d'autre part, la séparation des pouvoirs, c'est un des fondements de l'état de droit et de la démocratie dont la Ve République se réclame. Donc en faisant une manifestation qui était en gros sous le mot d'ordre « abat le pouvoir judiciaire », la police là marquait sa volonté de durcir le régime. Et je rappelle que cette manifestation a été soutenue par l'intégralité des partis parlementaires, à l'exception de la France Insoumise, qui l'a décrété comme une manifestation factieuse, mais l'ensemble des autres partis de droite et de gauche ont soutenu cette manifestation qui était directement dirigée et organisée par la police contre le pouvoir judiciaire.
Tu cites un certain nombre de lois qui organisent le pouvoir et en particulier une certaine forme de pouvoir d'exception qui peut être mis en place. On se rappelle qu'en 2005, au moment de ce qu'on avait appelé à l'époque les émeutes de banlieue, Jacques Chirac avait ressorti un vieux texte de loi qu'on pensait oublié et il avait instauré un état d'urgence dans les banlieues, ce qui n'avait pas été le cas depuis la guerre d'Algérie. Tu donnes un certain nombre de textes qui sont dans la Constitution et qui permettent de recourir en tant que de besoin et sous la seule responsabilité du chef de l'État, du président, à des textes liberticides finalement, hein, à des restreindre. On vit depuis les attentats de 2015 en état d'urgence. Donc il y a des restrictions qui sont faites régulièrement au droit de manifester. On se souvient que lors de la tenue de la COP21 à Paris, les militants avaient été empêchés de manifester contre les gouvernements qui se réunissaient au moment de la COP21 à Paris, sous le prétexte donc des lois qui avaient été instaurées à ce moment-là après les attentats. Tu cites le nombre vraiment considérable. Tout à l'heure, tu parlais du nombre d'interventions militaires à l'étranger. Là aussi, le nombre de lois qui ont été votées depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, des lois qui à chaque fois aggravent les lois précédentes et qui diminuent de plus en plus les libertés individuelles et collectives. Sous le couvert de la sécurité, toutes ces lois sécuritaires qui se succèdent les unes après les autres. On voit aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, une conjonction entre ces contre-réformes de la retraite, ces lois qui vont être mises au Parlement sur l'immigration, sur la sécurité, sur à nouveau des lois de travail qui vont être... Il y a vraiment une forme de durcissement autoritaire. On a vu au cours des dernières manifestations à Paris et en province la brutalité à nouveau de la police après la séquence des Gilets jaunes. Et donc, on a tous les ingrédients nécessaires pour l'instauration d'un État militaro-sécuritaire.
Oui, c'est une des raisons du titre « L'État radicalisé », qui était effectivement un titre provocateur dans le sens où on pense en général aux radicalisés qu'on appelle ou qui sont réellement des terroristes. Oui, c'est un État qui est en voie de radicalisation. La France sera sans doute pionnière, grâce aux Jeux Olympiques de 2024, dans l'instauration massive de la reconnaissance faciale, qui aujourd'hui, par caméra, qui aujourd'hui est considérée comme la dernière ligne de défense des ONG qui essayent de se battre désespérément contre l'intrusion de l'intelligence artificielle dans la vie privée des citoyens. La France sera sans doute pionnière à instaurer ça, puisque la loi a déjà été votée, et elle sera sans doute revotée, confirmée. Bien sûr, le terme expérimentation est trompeur, c'est tout ce qui est expérimenté est désormais définitif. Oui, il y a cette radicalisation de l'État français, hein, tu as dressé le panorama, donc je ne vais pas en rajouter, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi il y a cette radicalisation. Elle est inhérente, j'allais dire, aux institutions de la Ve République, au bonapartisme, hein, qui est par définition un régime fort. On découvre aujourd'hui avec horreur qu'il existe un 49-3, mais on ne le découvre que parce qu'il rentre tellement en contradiction avec les aspirations populaires qu'on ne peut plus le nier. Mais le 49-3 a été utilisé pour la loi El Khomri par le Premier ministre Valls. Donc il faut bien comprendre qu'on s'est habitué, en quelque sorte, à cette torpeur, radicale de l'État français. Ce qui est, d'une certaine manière, réconfortant, c'est que cette torpeur, je ne dis pas, est en train de prendre fin, mais la prise de conscience est en train d'arriver, puisqu'on arrive aujourd'hui à expliquer que le 49-3, c'est antidémocratique, alors que par définition, c'est dans la Constitution, donc ça veut dire que la Constitution n'est pas démocratique. C'est un mouvement qui est très très important, hein, on ne va pas en discuter là maintenant, je ne suis pas le plus compétent, mais en tout cas, moi, que je ressens comme très important, parce que au-delà même, disons, des retraites, au-delà même, disons, de l'aspiration à vivre autrement, il y a aussi cette prise de conscience politique qui peut permettre de déboucher sur quelque chose qui serait une remise en cause de ces institutions de la Ve République. Mais pourquoi cette radicalisation? Pourquoi cette description que tu as fait, disons, des outils dont dispose le pouvoir? Eh bien, il est tenté de les utiliser, ou il pourrait les utiliser, parce que la loi de criminalisation des squats qui a été votée en janvier 2023, la nouvelle loi contre les immigrés qui a été votée en 2023, ce sont des lois qui ont vocation à être appliquée, et l'état d'urgence est quelque chose qui est, encore une fois, parfaitement possible, disons, dans les prochains mois, si la tension sociale s'aggravait. Pourquoi cette radicalisation? Je pense que parce que nous arrivons, on le voit avec le mouvement des retraites, donc c'est presque une banalité que je vais raconter maintenant aux auditeurs, hein, on voit que ce régime est à bout de course. Il est aujourd'hui confronté à la fois un déclin international que j'ai brièvement mentionné, mais il est aussi confronté à un déclin sur le plan national. Le discrédit, j'en parle dans ma conclusion, hein, avant même ce mouvement actuel, hein, le discrédit du régime bonapartiste a cessé de s'aggraver depuis Chirac, puis ensuite Sarkozy et Macron, et Macron 2 encore plus. Donc on voit que ce régime qui voulait radicalisé, mais de façon pacifique, en quelque sorte. Pacifique, j'entends, pour tous ceux qui acceptaient le sort, hein, bien sûr, hein, pas les récalcitrants. Ce régime radicalisé, eh ben, il montre ses limites institutionnelles. Enfin, le 49-3 n'est plus accepté. C'est un signe incroyable d'accélération, en quelque sorte, des processus politiques de remise en cause de la Ve République. Il faudra, bien sûr, plus que ça pour l'achever, cette Ve République, mais je pense que la radicalisation, elle est à la hauteur, disons, de ce mouvement auquel on assiste, et qui en fait a été un mouvement souterrain qui s'est quand même produit depuis plusieurs années, hein, qui n'est pas né spontanément parce que Macron avait une mauvaise tête, mais parce qu'il y a une conjonction aujourd'hui à la fois de l'affrontement social, hein, c'est pas Bruxelles qui impose à Macron cette réforme, cette contre-réforme du régime de retraite. C'est Macron qui participe avec Bruxelles à cette offensive contre les salariés, hein. Donc Macron est parfaitement partie prenante de ce mouvement international, qui se conjugue avec une crise politique en France qui a un discrédit, hein, qui touche maintenant de façon massive, enfin je crois que c'est même pas la peine de l'expliquer aujourd'hui 20 mars, hein, qui touche directement même le président de la République.
Merci Claude Serfati pour cet éclairage sur une partie quasiment inconnue, méconnue de l'histoire des institutions françaises, institutions de la Ve République. On voit donc que sur le temps long, on a une continuité et en même temps des ruptures successives qui se font jour. Et aujourd'hui, on est peut-être dans un tournant de cet État radicalisé. Je rappelle le titre de ton ouvrage, L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. C'est publié aux éditions de La Fabrique. Je recommande chaudement cet ouvrage à nos éditeurs. Il me reste à te remercier à nouveau, à remercier Lulu à la technique. On se retrouve donc le 17 avril pour la prochaine émission de La Société dans tous ses états. En attendant, restez à l'écoute de Radio Libertaire.
Combien ça coûte ? Combien ça coûte la souffrance ?
Tout le monde se demande.
Combien ça coûte ? Combien ça coûte ?
On fait les comptes et à l'ancienne, on fera tomber les têtes.
C'est là pour être payé.
Combien ça coûte ?
Pour gagner
combien ça coûte, combien ça coûte.
Répétez la calculette, on fera tomber les têtes.
C'est leur payer.
Est-ce que la seule valeur qui vaille en ce début de millénaire, c'est le fric, la mitraille, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flous, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question préoccupe, la nouvelle pauvreté, faut nous dire combien ça coûte. Un kilomètre d'autoroute, Super Phoenix réformé. Un grand stade à footballer, combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la misère, combien ça coûte la souffrance, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France.
Combien ça coûte, combien ça coûte la souffrance pour gagner 3 cacahuètes. Combien ça coûte, combien ça coûte.
On fait les comptes à l'ancienne, on fera tomber les têtes.
C'est leur payer. Combien ça coûte,
combien ça coûte l'indifférence.
Tout le monde se demande.
Combien ça coûte, combien ça coûte.
Répétez la calculette, on fera tomber les têtes.
C'est leur payer.
Et tu sais...
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.